franceinter.fr.
Ça se reconnaît, un écologiste.
Les quotas de thon rouge.
Les OGM, aujourd'hui, ne servent à rien.
Il y a urgence à agir pour sauver la planète.
CO2.
Sans produits chimiques.
Mon amour.
Avec tous ces oiseaux à la con, ils sont 5 ans.
Denis Chessou.
Bonjour à tous, bienvenue dans CO2 Mon Amour, l'émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie, avec aujourd'hui Michel Thomas et Alain Duclos à la technique, qui est assisté de Stéphane Combe, c'est Valérie Ayestaraï qui réalise l'émission. Allez, une petite humeur qui commence par un avis de décès, car c'est avec une infinie tristesse que nous apprenons la disparition prématurée du grand contournement ouest de Strasbourg. Cette aberration écologique d'un autre âge de 24 km d'autoroute au tarif de 750 millions d'euros, destructeur de terres agricoles parmi les plus fertiles d'Europe, mais qui, n'en doutons pas, aurait été estampillée autoroute verte dans le plus grand respect de l'environnement, s'arrête. Non pas parce que l'État renonce au projet, mais parce que le dangereux groupe activiste écologiste Vinci a perdu sa qualité de concessionnaire pressenti, n'ayant pas répondu à l'offre dans les temps. Bon, il faut dire que les banques prêteuses ont senti aussi un avis de gros temps sur le projet. Il faudra malgré tout régler le congestionnement de l'agglomération strasbourgeoise, mais plus en douceur. Alors pour Vinci, si vous avez des angoisses, ne vous inquiétez pas, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes nantais, dont le groupe serait concessionnaire, n'est que repoussé de plusieurs mois. En attendant à Strasbourg, ce qui reste du grand hamster débouche le Crémant d'Alsace pour fêter cela. Alors transport toujours, c'est pas du surgelé, non, c'est du tout chaud, puisque Picard Bertrand, le petit-fils du grand professeur tournesol Auguste Picard, le Suisse qui chatouillait les abysses dans son bathyscaphe, vient de réussir la suite de son pari, survoler la mer et joindre Madrid à Rabat, vol intercontinental hein, s'il vous plaît, en avion solaire, oui, Solar Impulse, avec la simple utilisation d'une infime partie de l'énorme énergie nucléaire gratuite dont le soleil radieux inonde notre planète. Oui, un bel avion solaire sans bruit et surtout sans une gouttelette de ce précieux nectar hydrocarburé pour lequel épisodiquement les humains se déchirent et veulent perforer les fonds marins au large de la Guyane, de la Méditerranée, que sais-je. Et comme le bon sens précède l'essence et lui succédera sûrement un jour, eh bien ce sera encore une fois un demi-fou ingénieur qui fera avancer l'intelligence technologique humaine en explorant les sentiers du ciel en friche. Alors entendons par là, hein, pour le mot demi-fou, c'est une personne qui donne les moyens à ses rêves, en se moquant pas mal des railleries des gens qui sauront toujours prendre le train en marche quand ils auront compris que ça pourra rapporter un peu d'argent. Ah, si on pouvait mettre l'argent qui sert par exemple aussi pour rester dans la semaine, acheter une couverture gouachée de Tintin en Amérique au service du véritable progrès, eh bien on marcherait après-demain sur de nouvelles lunes énergétiques renouvelables. Et en plus, comme il est suisse, Bertrand Picard, suprême pied de nez à notre hystérie compétitive et puissante, il a aussi pris le temps de ne pas aller trop vite, 18h et 30 minutes pour son exploit. Et pour clouer le bec à ceux qui ricanent sur le soleil, eh bien Solar Impulse possède assez de réserves d'énergie pour voler la nuit et faire aussi voler nos rêves. Le menu, il est assez simple. En fait, il va y avoir plusieurs choses, mais c'est une ville.
Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. Dans un petit village caché sous les fleurs sauvages, sur le versant d'un coteau.
Et oui, Rio 1992 et Rio plus 20. Vous allez en entendre parler entre le 20 et 22 juin. Nous en parlons avec Pierre Radane tout au long de cette émission. 20 ans après la première conférence sur l'environnement et le développement de Rio et 10 ans après celle de Johannesburg, eh bien 120 chefs d'État et de gouvernement vont se réunir une nouvelle fois, donc à la fin du mois, pour effectuer un bilan de l'état de la planète et de tracer des perspectives. Bonjour Jean-Marie Pelt.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
On va faire un petit tour à Rio. Souvenez-vous, il y a 20 ans, donc on était en 1992, réunion donc internationale, on se rend compte que le réchauffement climatique, entre autres, va poser problème, on se réunit et on se dit qu'est-ce que l'on peut faire. Bon, ça n'a pas tellement marché, ce qui fait qu'il y a une piqûre de rappel qui s'est appelée Kyoto après, mais on va donc l'été prochain donc fêter, mais surtout essayer d'avancer avec Rio plus 20. Faites-nous un petit point s'il vous plaît.
À Rio, on a parlé pour la première fois il y a donc 20 ans du développement durable. C'était le fameux rapport de Madame Brundtland pour l'ONU qui a été publié en 1987. Maintenant, pour préparer Rio 2012, au mois de juin prochain, un comité d'experts, dont Mme Brundtland fait partie, a remis un rapport fin janvier à M. Ban Ki-moon. Et ce rapport est très intéressant parce qu'il montre que comme 70 millions d'êtres humains accèdent chaque année au niveau de vie et au statut, disons, de la moyenne des Occidentaux, l'environnement, la planète aura de plus en plus de mal à trouver les ressources nécessaires et à éviter les pollutions qui en sont la conséquence. C'est-à-dire notre système arrive à ses limites. C'est ça l'idée du rapport. Et ils ont proposé dans ce rapport qu'on prenne cette fois-ci pour de bon, enfin pour de bon, un nouvel indice qui rendrait le PIB, le produit intérieur brut, obsolète.
Oui, parce que ce n'est pas nouveau, ça. Donc
Non, mais ils insistent pour qu'on passe à l'acte. Voilà. Alors, le PIB, tout le monde sait ce que c'est l'addition de ce que valent tous les biens et tous les services qui sont produits. Mais il y a des services qui sont produits avec des coûts très élevés. Et si on fait travailler des petits-enfants, c'est des services qui auront abîmé les enfants. Si ces services sont produits avec un gaspillage énorme de ressources, on aura perdu des ressources.
C'est en gros l'art de compter ce que l'on gagne, mais jamais ce que l'on doit.
Tout à fait, c'est tout à fait ça.
Et pourtant, il était pertinent, on est bien d'accord. Cet indicateur, donc à la sortie de la guerre, était tout à fait pertinent,
oui,
mais maintenant, il ne tient plus la route.
Il ne tient plus la route du tout. Donc, je pense qu'on va s'acheminer. Ça va être probablement un des grands enjeux de Rio 2012, de s'acheminer vers une nouvelle économie. Alors, il y a des économistes qui pensent déjà ça, mais vous ne les voyez jamais à la télé, ceux-là. Vous voyez que des économistes qui nous font le commentaire au jour le jour de la crise économique. D'autant, entre parenthèses, qu'ils n'avaient pas prévu. Donc, c'est une science dont on peut douter de la pertinence, puisqu'elle n'est pas très, très prospective. Mais il y a des économistes qui sont déjà très orientés vers ces nouvelles formes d'économie. C'est M. Stiglitz en particulier, qui est prix Nobel d'économie et qui avait été chargé par Sarkozy, là pour le coup, d'un rapport sur de nouveaux indices.
Qui sert peut-être à caler un bureau maintenant, le rapport.
Oui, probablement comme tous les rapports, oui. Ah oui, oh, quel optimisme.
Ah non, enfin, c'est très bien d'avoir fait plancher dessus, ça, on est d'accord.
Mais les tables branlantes peuvent être en besoin de rapports. Oui. Voilà. Alors, j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'il faut vraiment arrêter avec cette idée qu'il faut que le PIB monte pour qu'il y ait de la croissance et qu'il faut de la croissance pour qu'il y ait de l'emploi. Alors, on me demande sans cesse, est-ce que vous êtes pour la décroissance? Je ne réponds pas à ça, je dis ceci. Je dis, il faudra que nous trouvions un jour une économie équilibrée, oui, qu'on n'ait pas besoin d'avoir une croissance de plus en plus forte pour avoir un nombre d'emplois qui augmente moins vite qu'on augmente la croissance, parce que nous sommes dans un monde fini et qu'on ne peut pas faire qu'on produise toujours, toujours plus de biens et de services en démolissant l'environnement et en traitant souvent très mal les gens qui travaillent, et que toutes ces valeurs qui sont les valeurs comprises dans l'idée de développement durable, l'environnement, l'économie et le social, forment désormais un tout, et qu'on prenne le problème par ses racines et pas par un seul aspect qui est la seule productivité de biens et de services, parfois à des coûts excessivement élevés. Donc j'ai trouvé que ça valait le coup de noter ce qui a été dit dans ce rapport que j'avais entre les mains. Et puis je souhaite vivement que ça marche. Là, je ferai une deuxième remarque quand même. Ces grands forums, moi je n'ai pas été à ces grands forums, parce que mon anglais n'est pas très bon et donc le contact est un peu difficile, mais ils sont productifs. Alors on se demande comment peuvent être productifs ces forums où on voit tout d'un coup un Jean-Louis Borloo, ministre de l'Environnement, déambuler tout seul dans un couloir avec trois personnes ou quatre personnes qui viennent lui dire bonjour. Ils perdent tous leur statut. Même les hommes d'État perdent leur statut parce qu'ils sont tous mélangés avec tout le monde. Alors on pourrait croire que c'est un foutoir. C'est pas un foutoir. Il sort des choses. Il sort des choses.
De l'informel, il sort très souvent des choses.
Oui,
bien sûr,
oui, tout à fait. Et c'est une ouverture sur ce que pourrait être un jour une démocratie mondialisée, parce qu'il faudra bien se décider à mondialiser la politique et ne pas seulement mondialiser l'économie. Donc je pense que ces forums sont effectivement positifs. Et c'est vrai que de Rio 92, il est sorti l'alerte sur le réchauffement climatique, il est sorti aussi la convention sur la biodiversité. Si actuellement on est aussi attentif à la protection de la biodiversité, c'est bien parce que ça a démarré à l'époque. Donc ne jugeons pas négativement ces nouvelles formes de démocratie mondiale et pensons à une gouvernance mondiale qui sera absolument nécessaire et plus ça sera mieux ça vaudra.
Merci Jean-Marie, et à très très vite. Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
Beaucoup de sujets donc sur la table avec vous, Pierre Radane. Bonjour Pierre Radane.
Bonjour.
Vous êtes le président de 4D, autrement dit une ONG qui s'appelle Dossiers et débats pour le développement durable. Vous faites avancer la connaissance, vous faites énormément de pédagogie avec cette ONG et cette association. Vous êtes aussi un expert climat, énergie. Vous n'oubliez jamais bien sûr la biodiversité et la part de l'homme dans tout cela, un peu à l'image de Jean-Marie Pell. Donc il y a, on va dire, posé à sa manière les grands enjeux. Mais qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui? Alors c'est vrai qu'en 92, nous étions 5 milliards et demi d'habitants sur Terre, nous sommes 7 milliards aujourd'hui. On connaît à peu près, les démographes sont à peu près d'accord pour dire qu'on sera 9 milliards et demi autour de 2050. Mais quels sont donc les grands sujets, on va dire, aujourd'hui pour Rio plus 20? Puis après, on va voir donc les difficultés, ce que l'on peut espérer ou non.
Alors, cette conférence de Rio a deux sujets principaux. Le premier sujet, c'est qu'est-ce que c'est qu'une économie verte? Alors, ça ne peut pas être seulement utiliser des technologies écologiques du type, par exemple, énergie renouvelable, etc., pour la production d'énergie, sans aborder également les questions économiques et sociales. On se situe bien dans une logique qui est une logique de développement durable. Et la définition de cette économie verte fait beaucoup de débats entre les pays. Par exemple, il y a une très forte pression qui vient du monde syndical et qui dit bah, cette économie verte, elle doit mettre en place une protection sociale sur le plan international. On voit aujourd'hui qu'en France, nos travailleurs sont en concurrence avec des travailleurs des pays qui n'ont aucune protection sociale. Et on voit bien que la mondialisation, elle demande une réponse aussi. Et puis, autre sujet qui est abordé, c'est la crise économique et financière. Est-ce qu'une économie verte, c'est le même modèle économique et financier ou est-ce que c'est autre chose? Alors, on voit bien qu'entre les différents pays, il y a sur ce sujet-là des définitions qui sont extrêmement diverses. Et puis, de la part des pays en développement, la peur que ce soit, je dirais, du protectionnisme camouflé pour mettre des normes sur les productions des pays en développement pour fermer les marchés des pays riches. Donc on est sur un débat qui est un débat extrêmement difficile. Je pense que la conférence arrivera à donner des éléments de définition. Et on a bien évidemment besoin d'avoir un cap dans lequel les uns et les autres se reconnaissent. 1992, c'était le sommet de l'alerte. 2012 doit être le sommet de la vision. Qu'est-ce que c'est qu'un 21e siècle réussi? Comment on va pouvoir faire en sorte que l'ensemble des pays accèdent à des meilleures conditions de développement et de vie pour leur population dans des conditions qui sont acceptables au niveau de la réduction de la pression sur l'environnement et puis bien sûr qui fonctionnent avec le stock de ressources qu'on a sur la planète qui bien évidemment n'est pas sans limite, notamment par exemple le pétrole. Et donc c'est d'essayer dégager une vision pour laquelle l'ensemble des pays se mettent dans des situations d'adhérer et de la mettre en œuvre, et puis derrière, avec des programmes et des objectifs concrets. Alors, il y avait les objectifs du millénaire pour le développement qui avaient été décidés en 2000. On est très, très loin des objectifs qui avaient été fixés pour 2015, donc c'est pour demain matin, par exemple sur les questions de lutte contre la pauvreté, contre la faim, l'éducation des enfants, le statut de la femme, enfin il y avait toute une série d'objectifs qui avaient été fixés. Ces objectifs ne seront pas atteints. Et donc, à Rio, on va essayer de recranter sur ces objectifs et puis de donner de nouvelles échéances et en élargissant les sujets. Par exemple, en rajoutant l'accès à l'énergie, qui n'était pas dans les objectifs initiaux. Et puis, il y a un débat sur le fait de mettre des objectifs de développement durable. Et là, pas seulement en direction des pays en développement, mais pour l'ensemble des pays. Par exemple, des objectifs d'efficacité d'utilisation de l'énergie, des objectifs de qualité de l'eau, et même est en débat des objectifs de plafonnement de la quantité de nourriture carnée dans les pays industrialisés, parce qu'on a quand même aujourd'hui 1 milliard d'habitants
qui sont aujourd'hui
dans des situations...
Et la moitié, on va le rappeler, des surfaces agricoles qui servent donc à nourrir aussi les animaux.
Oui, il y a sur Terre aujourd'hui 2 fois plus de terres utilisées pour l'élevage que pour la production végétale directe pour l'alimentation. Et donc, ça peut pas coller, quoi. Bon. Et donc, il y a tous ces sujets-là qui vont être sur la table, donc à Rio, sur ce paquet donc économie verte, avec l'idée de se donner des objectifs concrets à atteindre. Donc pour les décennies qui viennent. Alors quand on parle de Rio plus 20, c'est pas dans un sens commémoratif 20 ans après Rio 1992, c'est l'idée de faire un agenda des 20 ans qui viennent. C'est-à-dire se donner des objectifs avec des points de passage, donc avec une feuille de route pour les 20 ans qui viennent. Alors ça va être...
Essayer de créer une vision du futur, c'est un thème qui vous est extrêmement cher, parce que c'est ce qui nous manque peut-être aux uns et aux autres.
Attends, totalement. C'est dessiner les contours d'un changement de civilisation. Enfin, Edgar Morin a même une formulation qui est encore plus belle. Il parle de métamorphose de civilisation. Et c'est de ça dont on parle. Et le problème, c'est qu'on doit résoudre les difficultés du 21e siècle, alors qu'on n'a pas résolu les difficultés du 20e siècle. Enfin, le jugement de l'histoire sur le 20e siècle sera terrifiant. Les gens ne comprendront pas dans le futur comment un siècle a pu avoir accès à tant de richesses, à tant de progrès techniques et avoir fait se creuser autant les inégalités. Donc la négociation à Rio va être extraordinairement difficile parce qu'il y a une amertume de la part des pays en développement qui est bien évidemment extrêmement forte. Un égoïsme des pays industrialisés qui est d'autant plus renforcé dans la période actuelle que la crise financière diminue très fortement les moyens des budgets publics, et donc mettre de l'argent sur la table pour aider les pays en développement, ça va être extrêmement difficile. Et puis les pays émergents disent, nous on veut bien prendre des objectifs, mais plus tard. On veut d'abord faire notre rattrapage. C'est ça la discussion. Et puis il y a tout le débat derrière sur la gouvernance mondiale.
Et on va y venir. On va y venir tout à fait tranquillement. Et on va aussi vous donner des exemples aussi de ce qui fonctionne plutôt pas mal. On ira au Sénégal et aussi en Corrèze. Ce sera après Arthur H. Cheval de Feu.
Je dévalais dans les ravines, dans les prairies, j'étais sauvage. Ma vitesse, c'est l'infini. Ma colère, c'est la tornade. Quelque chose dans le vent me dit qu'il est temps. Thank you.
C'est au de mon amour, Denis Chessou, sur France Inter.
Et avec un petit peu d'avance, donc Rio plus 20, parce que vous allez en entendre beaucoup parler dans l'actualité, entre le 20 et le 22 juin, donc avec Pierre Radane qui est en direct avec nous. 1972, souvenez-vous, vous étiez tout petit, oui absolument, c'était la première conférence des Nations Unies sur l'environnement humain, et donc là on actait les limites des ressources terrestres. Donc vous avez entendu parler de ce rapport donc, du Club de Rome, et bien c'était là, et ça a débouché sur la création d'un programme des Nations Unies pour l'environnement. Alors ça nous amène à parler maintenant quand même de l'autre thème extrêmement important, ce qu'on appelle la gouvernance, en fait, qui a le pouvoir, et beaucoup de gens, et là aujourd'hui, donc Pascal Canfin, ministre délégué en charge du développement, eh bien, souhaite un engagement daté d'une agence qui prendra donc le relais de ce programme, qui effectivement a peu de moyens, et pourtant qui est indispensable, afin de coordonner alors, les différentes conventions environnementales qui coexistent, qui sont dispersées. Qu'est-ce que l'on peut espérer de ce côté-là ? Parce qu'on se doute bien que la Chine n'est pas vraiment d'accord, les États-Unis non plus, l'Inde non plus, pour qu'il y ait une gouvernance mondiale. Où en est-on ?
Il faut peut-être expliquer le fonctionnement des Nations Unies vis-à-vis des gens qui nous écoutent en des termes très simples. Imaginez que vous ayez une espèce de pays avec des ministères. Aux Nations Unies, ce sont des agences ou des programmes, avec un programme qui est basé à New York, un programme qui est basé à Istanbul, un programme qui est basé à Genève, la question du climat qui est basée à Bonn, la question de l'environnement qui est à Nairobi. Oui. Et ces ministères sont tellement loin les uns des autres qu'il n'y a pas de coordination interministérielle entre eux. Ils ne se réunissent jamais tous ensemble en termes de gouvernement. Et donc, la main droite des Nations Unies ignore totalement ce que fait la main gauche. Alors, il y a des programmes qui sont des programmes ou des agences qui sont anciennes. Et puis, il y a des sujets qui sont plus récents et qui, dans le système des Nations Unies, ont une place totalement secondaire. Alors, il y a au total 500 traités internationaux sur l'environnement. Qui sont gérés dans des endroits totalement différents et sans cohérence entre eux. Par exemple, la Convention de Rio sur le climat donc, est gérée à Bonn et n'est pas avec le programme des Nations Unies pour l'environnement qui, lui, est à Nairobi. Bon. Donc on a des choses comme ça qui collent pas. Donc la question qui est posée, c'est il faudrait mettre en place un vrai organisme sur l'environnement qui rassemble tout ça qui permette d'avoir une vision beaucoup plus structurée. Alors derrière, il y a trois difficultés. Première difficulté, il faut de l'argent. Et là, en l'état actuel des choses, on ne sait pas remplir la caisse. Deuxième difficulté, il faut que cette question de l'environnement puisse interpeller les autres agences, les autres programmes pour être en cohérence. Et puis, il faut que les décisions en matière d'environnement puissent, pour être appliquées, est assortie d'une certaine capacité de sanction. Parce que si les gens qui signent les traités, les pays qui signent les traités ne les appliquent pas, vous voyez bien qu'on a, y a une difficulté.
Là où ça marche très bien, c'est l'OMC, c'est-à-dire que l'Organisation mondiale effectivement, du commerce. Si vous transgressez donc, les lois du commerce, puisqu'on estime que c'est l'économie qui doit tout bouffer, là, vous avez des règles qui sont appliquées.
Dans le système international, il y a eu trois couches. En fait, il y a une couche qui a été constituée en 1944, qui est, donc avec les accords de Bretton Woods, la Banque mondiale et puis le Fonds monétaire international, dont on entend en ce moment beaucoup, beaucoup parler. Là, ce sont des institutions dans lesquelles tous les pays ne sont pas représentés, et c'est ceux qui payent qui commandent. Bon. Ensuite, il y a deuxième couche, c'est la mise en place des Nations Unies qui s'est faite l'année d'après, donc avec le traité de San Francisco en 1945, dans lequel les Nations Unies peuvent produire du droit, mais n'ont pas réellement de capacité financière, c'est pas là où est l'argent, et n'ont pas réellement de capacité de sanction avec toutes les difficultés qu'on connaît d'application des mesures du Conseil de sécurité. Et puis ensuite, après, a été constituée beaucoup plus récemment l'Organisation mondiale du commerce, dans laquelle tous les pays non plus ne sont pas.
95, je crois.
Dans l'OMC, donc là aussi, c'est les pays qui ont l'argent qui commandent. Mais l'OMC, par contre, a un système de sanctions. C'est le seul organisme qui a un pouvoir de sanction. Et donc, avec l'organisme de règlement des différends. C'est-à-dire que quand un pays fait une infraction sur la liberté de la concurrence, eh bien, il peut être condamné par l'OMC. Alors, le problème aujourd'hui, c'est comment peut-on avoir des systèmes de sanctions qui n'existent que pour le respect de la concurrence et sur l'environnement, il n'y a aucun système de sanctions.
Il n'y a pas d'organe qui demanderait des comptes aux gros pollueurs, aux pilleurs de ressources, aux ravageurs d'écosystèmes.
Alors, il y avait l'idée qu'il faudrait un tribunal général auprès des Nations Unies dans lequel, sur chacun des sujets, on puisse référer.
Mais là, ça bloque.
Il n'y a pas ce tribunal. Alors, il y a le tribunal pénal international, mais qui n'a pas été reconnu par tous les pays. Par exemple, les États-Unis n'ont pas reconnu le TPI, le tribunal pénal international. Et donc, dans ce problème de gouvernance sur le développement durable et sur l'environnement, on va être obligé d'y aller étape par étape. La première étape, ça va être de renforcer le programme des Nations Unies pour l'environnement donc, qui existe, qui est basé à Nairobi et qui restera à Nairobi, le renforcer, essayer de lui donner des moyens supplémentaires, coordonner les programmes donc, et les différents traités, conventions qui touchent à l'environnement. En l'état actuel des choses, essayer de trouver un peu d'argent supplémentaire, articuler tout ça avec les autres programmes des Nations Unies. Alors, il y a un Conseil économique et social, et l'idée, c'est qu'il y aurait, dans ce Conseil économique et social, dans lequel il y a les États, mais aussi les entreprises, les collectivités locales, les ONG, qui auraient, dans tout ce système, qui serait renforcé, et qui aurait autorité sur l'ensemble des agences et programmes des Nations Unies, pour que la main droite sache ce que fait la main gauche. Et puis, il y aura la question du pouvoir de sanction, mais c'est pas sur la table à Rio. Il y a bien évidemment beaucoup de pays qui plaident en permanence en fonction de la souveraineté nationale et qui n'acceptent pas que qui que ce soit vienne voir chez eux comment les choses se passent. Mais malheureusement, tant qu'on n'aura pas un pouvoir de sanction, le non-respect des traités restera impuni.
Alors, on va s'intéresser maintenant à ce qui fonctionne plutôt pas mal, c'est-à-dire en fait les actions qui sont territoriales, qui sont locales, avec entre autres les agendas 21. Donc, ils sont regroupés dans un comité 21. Les agendas 21, en fait, ce sont des programmes d'action pour le 21e siècle qui ont été engagés donc, à la suite de Rio 1992, avec, donc, je vous le disais, ces déclinaisons locales, régions, départements, communes, mais ça peut être aussi des collèges, des lycées. Ce n'est pas du tout standardisé, ça s'adapte à chaque fois à chaque territoire. Et on va dire que 80% de ces agendas 21 locaux se trouvent en Europe et on a 900 démarches qui sont recensées en France. Et moi, je vous emmène dans une petite commune qui s'appelle donc Ayen. Nous sommes en Corrèze avec Jérôme Perdry. Et là, on va découvrir comment on fait, pas très loin de Brive, comment on fait vivre un agenda 21 et surtout comment on vit ce développement durable. On est dans le sud de la Corrèze, en fait, Jérôme Biardry.
Ah oui, on est au pays des buttes calcaires, hein, voilà, où les orchidées poussent dans un coin un peu particulier de la Corrèze, parce qu'on est sur des zones calcaires, alors que la Corrèze n'est absolument pas calcaire. Ouais. Et puis on est sur les résurgences du Massif central, le début de l'Aquitaine, donc un endroit très particulier de la Corrèze.
Là, on est sur une butte, vous avez emmené donc exprès. On a donc le village qui est juste à côté. On a ce petit ruisseau pour parler de développement durable. Parce qu'en fait, vous êtes une toute petite commune, 741 habitants aujourd'hui. Et alors, comment vous faites? Quelle forme ça prend lorsque l'on parle de développement soutenable chez vous?
Alors écoutez, bon, déjà pour vous dire que ça a commencé en 2005, notre aventure, parce que ça c'est une vraie aventure dans une commune rurale, hein, un agenda 21. On a fait partie de 13 villages tests en France pour l'association Notre Village, qui est une association qui porte des agendas 21 de communes rurales. Et puis on ne s'est jamais arrêté. Donc on a commencé modestement, pas à pas. Au début on avait 55 actions. En 2006 on a eu un label Village Terre d'Avenir. En 2007, une reconnaissance nationale de notre agenda 21. Donc ça, c'était un grand honneur pour nous. Hein, parce que je vous avoue qu'on n'a pas de chargé de mission. On fait ça un petit peu à l'énergie. Mais on avait acté 55 actions à l'époque. Oui. On avait réalisé 80%. On avait un programme d'action qui était très cohérent. Peut-être un peu environnemental et sur le volet énergie. Et puis en 2010... on a de nouveau déposé un deuxième plan d'action qui sont plus sur le volet social et sur la solidarité entre les territoires et les générations. Et il se fait énormément de choses sur notre collectivité.
Alors on va essayer de faire voir ça à la radio. Sur l'énergie, diminution quand même de 40% de la consommation d'énergie en 4 ans, hein, pour les bâtiments municipaux.
Voilà, donc ça, il y a eu un gros travail. Et donc les bâtiments municipaux sur une commune rurale comme la nôtre, eh bien, c'est deux écoles, une mairie, c'est un centre multi-activité, c'est des appartements pour personnes âgées autonomes. Donc en fin de compte, il y a énormément de bâtiments. Ouais. Donc ce qu'on a fait, c'est un diagnostic. Tout bêtement, parce qu'on n'est pas des professionnels. Et puis, on a suivi le diagnostic de A à Z. Oui. Et c'est 40% d'énergie en moins en 4 ans sur notre collectivité. C'est une vraie réussite qui se fait aussi avec les agents sur le territoire. Et puis, les hommes. Hein. Donc, il y a énormément de sensibilisation aux économies d'énergie. Et alors, nous, ce qui nous manque, et on espère que dans les prochaines années, eh bien, ça sera un peu plus d'énergie renouvelable dans notre collectivité.
Alors comment on fait en fait pour mettre la population dans le coup? On est quand même dans un milieu rural. Bon, Brive n'est pas très loin, mais pour intégrer ces données-là, on vous a regardé des grands yeux, parce qu'il faut quand même que, entre guillemets, que ça rapporte, que ça se voit, quoi.
Alors au début, c'est pas évident. Hein. Donc en 2005, on a réuni tous les gens qui étaient un peu convaincus. On a monté un comité de pilotage. Ouais. Et puis vaille que vaille. Hein. Donc on a commencé à acter nos actions avec un conseil municipal. Alors,
qu'est-ce qu'il y a eu comme action, on va dire, un peu fédératrice?
Alors les actions fédératrices, déjà, c'est le relais service public. Donc ça, c'est vraiment une action transversale.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Eh bien ça, c'est un relais service au public. C'est-à-dire que dans ce lieu, vous avez une personne spécialement formée qui peut vous renseigner, vous aider et vous accueillir dans des domaines très spécifiques qui sont l'emploi, la prestation sociale, l'habitat, les transports, l'énergie, en fin de compte, tout ce qui est un petit peu dans votre vie. Vous cherchez une nourrice pour votre enfant, vous la trouvez là. Vous cherchez à tondre votre pelouse pour votre grand-mère, vous le trouvez là. Vous cherchez à faire votre CV, vous trouverez ici. Et alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est très développement durable, parce que ça a évité 40 ou 50 000 km parcourus, parce que quand vous cherchez du travail et que vous devez aller à Brive deux fois dans la semaine, et bien c'est bien plus pratique de venir à Ayen. C'est du temps de gagner, c'est de l'argent. Et puis bon, ça fédère vraiment les gens, parce que c'est un impact très positif et très concret sur le territoire.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Ben, il y a eu tous les diagnostics énergie, il y a tout ce qui est la participation citoyenne, comment les gens dans notre collectivité ont des lieux d'échange, des lieux de proposition, donc il y a tous nos cafés débats, il y a aussi l'accueil de, comment ça s'appelle, de commerce et d'activités de proximité qui est en train de se développer sur notre collectivité, donc il y a aussi toute la sensibilisation des enfants et toute la sensibilisation des habitants au développement durable, hein. Avoir un agenda 21 reconnu avec des indicateurs d'évaluation qui sont très performants, ça se fait pas sans les hommes. On décide pas du jour au lendemain qu'on va réduire nos déchets de 20%, mettre en place des stations de compostage collectif. S'il n'y a personne qui vient mettre les déchets verts, ça sert strictement à rien.
Parce que là, ça fonctionne pas mal. Donc maintenant, ça y est, ça s'emplit bien. Là, on voit ce compostage collectif, donc avec ces bacs. Là.
Voilà, bah là, vous êtes sur le village de vacances VVF Village. Hein, donc vous avez 5 plateformes de compostage collectif. Le VVF Village, c'est 15 000 repas par an. Ouais. Donc ça fait du déchet vert, hein. C'est des cuisinières qui sont mobilisées, qui amènent et des agents, c'est aussi les vacanciers qui viennent sur le territoire. Moi je pense qu'ils ils sont fiers aussi d'avoir sur les territoires ruraux des lieux de vacances qui sont aussi un petit peu responsables. Ouais. Nous c'est notre devise.
Vous faites le GR27 vous aussi?
Non, pas du tout, on est les propriétaires du gîte.
Ah bon?
Tout se passe bien, ça vous plaît ici?
Ah, c'est très bien, c'est un super deux épis.
Il y a juste la confiture qui est un peu sucrée.
Ah bon?
C'est
vrai. Ah oui. On n'est pas responsable, nous, on vient juste d'arriver. Et c'est quoi comme pain?
C'est du sous-l'oignon. Avant, on prenait du brugnon et puis on a changé. Il est bon. D'ailleurs, les gens l'aiment bien, non?
Oui. On va essayer d'en ramener.
Maintenant, c'est vous qui déciderez. À 6 h du matin dans la boulangerie, vous aurez le temps de réfléchir. Bonne journée à ce soir.
Vous avez aussi diminué énormément de consommation électrique.
Alors la consommation électrique, là on est en train de travailler sur de la réduction au niveau des lampadaires. On change toutes nos lampes et on éteint maintenant certains endroits dans la commune.
Ouais. Et là vous me disiez, évidemment, vous n'avez pas beaucoup de moyens, on imagine bien. Donc comment on réalise tout ça?
Eh bien on réalise ça avec l'énergie des gens. On a à peu près une trentaine de personnes, des élus, des habitants. Et depuis 5 ans, on n'a jamais arrêté. C'est-à-dire qu'on est très mobilisés. Les résultats sont là, donc ils nous poussent. Les récompenses aussi qu'on a, hein, parce qu'avoir les rubans du développement durable, c'est aussi une fierté pour notre collectivité. Une joyeuse aventure qui continue.
Jérôme Perdry, qu'est-ce qui a changé dans la mentalité des gens depuis que vous faites ça?
Je me rappelle très bien en 2004, quand on avait fait la première semaine du développement durable, on avait 2 personnes à nos manifestations, donc on rentrait chez nous, on était complètement dépités, on disait qu'on allait arrêter, et puis on ne s'est pas arrêté. Et aujourd'hui, eh bien, on fait la semaine du développement durable, la semaine aux alternatives des pesticides, la semaine de réduction des déchets, la semaine européenne de la mobilité.
Ah oui, d'accord.
Tout ça est fait dans notre collectivité, avec des résultats qui sont très probants, avec des cafés éco-citoyens qui, des fois, accueillent 50 personnes sur le compostage, 50 personnes sur les pesticides. Et bien ça, il y a quelques années, ça aurait été inimaginable dans notre collectivité.
À Jérôme, on va se poser quelques instants parce que vous avez un chêne qui est superbe. Alors peut-être qu'il a connu le développement durable version Colbert. Hein. Ça veut dire qu'il a quand même un peu plus de 3 siècles, cet animal-là. Et en fait, on se pose là parce qu'il est très emblématique.
Voilà, il est très emblématique, surtout que notre agenda 21, avec son action 100 qui s'appelle Village Branché, est une action qui décline l'arbre dans tous ses états.
À brancher comme...
Et branché, oui, c'est un village tourné vers l'avenir qui n'oublie pas ses racines.
Bien.
Voilà, et donc nous, on décline 12 items dans cette action qui vont de la solidarité à la biodiversité, en passant par les métiers, en passant par les inventaires des arbres. Et cet arbre-là, notamment, a été inventorié par des lycéens, voilà, du lycée horticole d'Obja, qui tous les ans participent à des actions emblématiques sur notre commune. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fédère avec l'arboretum de la Tuilière, une fête de l'arbre qui a eu un véritable succès au mois d'octobre. Et on est parti pour des années pour respecter l'arbre dans notre commune.
Histoire d'un village branché en Corrèze, Ayen, voilà, développement durable avec Jérôme Perdry. Alors on a bien compris, hein, lui c'est vraiment le monsieur développement durable, il y croit. Son maire y croit aussi bien évidemment, c'est Paul Reynal. Mais c'est très intéressant parce qu'on comprend bien qu'on lit des concepts qui étaient jusque-là séparés, c'est ça sur le quotidien.
Oui, et puis ça fait contraste avec l'ambiance générale de notre société aujourd'hui, à savoir une énorme inquiétude des gens sur l'économie, sur le social et aussi maintenant sur l'évolution de la planète. Et ce qui est absolument frappant, c'est le non-investissement démocratique dans lequel on est. C'est-à-dire que dès qu'on commence à mettre les gens ensemble, qu'on commence à faire du lien social, on trouve la capacité de résoudre énormément de problèmes. Moi, je travaille beaucoup sur les plans climat territoriaux. C'est un peu comme les agendas 21. Mmh. On les élabore avec les gens, avec des groupes qui sont des groupes de plusieurs centaines de personnes. Et les gens ont un plaisir fou à préparer les décisions qui vont tisser leur vie. Il y a un gisement démocratique aujourd'hui qui n'est pas utilisé. Alors, bien sûr, tout ça se fait dans la transversalité, c'est-à-dire qu'il faut arrêter ce découpage en tranches et essayer d'avoir une vision globale des choses. Et à partir de ce moment-là, on a des capacités qui sont considérables.
Alors, Ayen, on l'a dit une fois, enfin, ils ont reçu donc les rubans du développement durable. Donc ce sont des prix tout à fait honorifiques qui, tous les ans, donc, sont remis aux meilleurs agendas 21. On va poursuivre ce voyage avec vous, Pierre Adan, parce qu'on va partir aussi au Sénégal, rencontrer un de vos amis pour voir aussi ce qui se fait en matière de développement soutenable. Ce sera juste après Lénine, un jeune Brésilien qui... Non, je ne me lance pas dans le titre.
Même si je comprends pas toujours tout, l'environnement, moi, ça m'éclate. C'est au de mon amour, Denis Chessou.
Du on dit,
céu despenca, quando já nasce pronta, quando o vento é que inventa, de onde vem a canção? De onde? De onde vem? De onde vem a canção? Quando se materializa, no instante que se encanta, do nada se concretiza, de onde vem a canção? Pra onde vai a canção? Quando o fim da melodia, onde a onda se propaga, em que espectro irradia? Pra onde ela vai? Quando tudo silencia, depois do som consumado, onde ela existiria?
Voilà, ils seront en direct du Festival Rio Loco. Mais oui, bien sûr, ce sera le 14 juin à partir de 22h sur France Inter. Nous les aimons beaucoup. Merci à Jean-Baptiste Audibert d'avoir choisi Lénine. Nous étions du côté de Recife. Et oui, avec cette petite touche, vous avez compris, parce que nous parlons donc de Rio plus 20. Pierre Radan, vous m'avez dit, il y a un homme qui est absolument formidable, qui s'appelle Abdoulaye Séné, qui est responsable politique au Sénégal, qui est le président de Global Local Forum et qui est aussi donc l'ancien président d'une région qui s'appelle le Fatick. Fatick, c'est 800 000 habitants. Le Sénégal, c'est 13 millions d'habitants. On a une population urbaine 50%, 50% dans les campagnes. Donc, il y a une grande partie de la population, sans doute bien, qui vit sous le seuil de pauvreté. Et bah, cet homme-là fait des choses. Donc, je l'ai eu en ligne hier. Et savoir comment se traduisait le développement durable dans votre région, donc le Fatick, au Sénégal.
Ben, je vous remercie. Je pense que c'est une question extrêmement intéressante pour un pays comme le Sénégal, pays sahélien, très confronté aux grands défis climatiques, énergétiques, environnementaux, mais aussi alimentaires. Et nous avons, face à ces défis, pris un certain nombre d'initiatives au niveau national, mais surtout au niveau local. Et je voudrais peut-être, parlant de la région que j'ai eu l'honneur de diriger pendant 7 ans à 8 ans, évoquer quelques exemples assez concrets qui touchent notamment à l'énergie renouvelable. Nous avons constaté que la déforestation était en train de poser des problèmes extrêmement complexes aux différents ménages et nous avons donc réussi à développer des cuiseurs économes en énergie, notamment en bois de chauffe, en charbon de bois, et nous avons réussi à former des artisans à la fabrication de ces différents cuiseurs, ce qui nous a permis justement de renforcer les capacités, mais aussi de lutter contre la pauvreté en générant des revenus. Mais nous avons surtout eu comme cible l'économie d'énergie à travers la fabrication et la diffusion de ces cuiseurs solaires, qui aujourd'hui sont largement utilisés au niveau des populations, mais de plus en plus avec les différents partenaires au développement. Dans chaque projet qui est initié dans notre région et au-delà de la région, nous encourageons l'utilisation de ces cuiseurs, notamment pour les cantines scolaires et également pour d'autres activités de même type. C'est donc un projet phare qui est aujourd'hui en train de prendre des dimensions extrêmement intéressantes et notre objectif, c'est de faire en sorte qu'à l'échelle de toute la région, le maximum de ménages utilisent ces cuiseurs à économie de bois de chauffe, mais qu'également au niveau national, nous puissions travailler à la diffusion et à la vente de ces cuiseurs, ce qui permet de développer une industrie locale extrêmement performante aujourd'hui.
Parlez-nous aussi, s'il vous plaît, des fermes communautaires, car vous êtes vraiment dans une région agricole, vous êtes vraiment aussi à la campagne. Donc, que fait-on avec ces fermes communautaires ?
Alors, vous avez parfaitement raison. Notre région est à 80% agricole. Je dois dire que quasiment l'essentiel de la population de notre région dépend de l'économie rurale. Et dans ce cadre-là, surtout en relation avec les changements climatiques, nous avons travaillé sur trois piliers essentiellement. Le premier pilier, c'est l'amélioration de la filière caprine. Vous savez que la chèvre est considérée comme l'animal du pauvre et c'est un élevage extrêmement développé dans notre région. Et nous avons donc, en relation avec une région française, la région de Poitou-Charentes, travaillé sur l'amélioration des techniques d'élevage pour une semi-sédentarisation de la chèvre. Nous avons pu développer une filière post-laitière avec donc une transformation fromagère. Donc nous avons véritablement choisi la chèvre pour en faire un instrument, un levier de développement local, mais aussi de réduction des agressions sur l'environnement. Et aujourd'hui, je parle de l'élevage, je peux parler également de l'agriculture. Nous avons choisi de développer l'irrigation au goutte-à-goutte. Nous sommes en train de multiplier les fermes agricoles à l'échelle communautaire, mais de plus en plus à l'échelle familiale, pour que le goutte-à-goutte, comme technique d'irrigation économe, mais performante en matière d'agriculture, qui permet aussi aux populations agricoles de ne plus dépendre seulement de la pluie et de l'agriculture pluviale, de pouvoir travailler plus longtemps, plus efficacement et avec des ressources beaucoup plus importantes, mais beaucoup plus sécurisées. Tout cela dans le cadre de l'adaptation au changement climatique.
Aboulaye Séné, qu'attendez-vous de Rio plus 20 ?
Alors, nous attendons beaucoup de Rio plus 20. Les problèmes que j'ai évoqués, climatiques, alimentaires, sont des problèmes qui se posent aujourd'hui à l'échelle globale, mais nous avons la conviction que les solutions devront partir du local. Alors, ce que nous attendons de Rio, c'est donc de revisiter le bilan de Rio, hein, de 92, pour voir exactement ce que le monde a pu réussir de bien depuis 20 ans, de rénover l'approche en changeant peut-être les paradigmes en matière de gouvernance écologique, de gouvernance environnementale à l'échelle mondiale, pour voir comment le monde, dans sa diversité, pourrait travailler à plus de concertation et à la configuration de programmes, de politiques mieux partagées, mieux concertées, où les grands pays comme les petits pays vont se retrouver en termes de préoccupations, mais politiques qui devraient déboucher sur des programmes concrets à exécuter au niveau local, mais surtout de l'adaptation au changement climatique de façon beaucoup plus positive.
Dans le concret, Aboulaye donc Séné, responsable politique au Sénégal, et en plus, ça nous fait du bien, parce que ça nous change aussi, heureusement, complètement de l'image de l'Afrique.
Oui,
Pierre Adane, pardon.
Des gens de grande culture, d'un désintéressement absolu et qui travaillent avec des populations parmi les plus pauvres du monde. Et puis toute cette zone sahélienne est aujourd'hui en grande souffrance avec une croissance démographique qui reste quand même extrêmement forte. Et puis un couvert végétal qui est terriblement agressé par le changement climatique et la progression vers le sud du Sahara.
Enfin, oui, parce que...
Comment lutter contre la désertification et puis trouver des filières, des conditions, des améliorations de conditions de vie des gens. Et moi, je fréquente ces gens-là et ça donne vraiment beaucoup envie, quoi.
Pierre Adane, avant de se quitter, pour éviter, on va dire, un risque d'échec ou au moins du plus petit dénominateur commun de Rio plus 20, qui part quand même très très bien parti, qu'est-ce que l'on peut dire ?
D'abord, les Nations Unies ne peuvent fonctionner qu'à l'unanimité des pays. Et sur un traité, sur un accord, un pays peut toujours retirer sa parole, peut dire « moi je veux pas ça ». Et les Nations Unies n'ont pas la possibilité de s'imposer par-dessus les souverainetés nationales. Et donc à partir de ce moment-là, arriver à avoir un accord à l'unanimité de tout le monde est extrêmement difficile, sauf à avoir des formulations extrêmement langue de bois, très ampoulées, et des conditions de mise en œuvre qui ne sont pas du tout contraignantes. Et donc, la structure pyramidale du monde aujourd'hui, à savoir les États, les traités, les organisations internationales, les financements internationaux, tout ça aujourd'hui est extrêmement en grande difficulté. Quoi.
Alors, du côté horizontal.
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une deuxième gouvernance du monde et qui, elle, aujourd'hui, est en train de tout chambouler. Bon, c'est d'abord les entreprises qui, bien sûr, depuis longtemps passent les frontières. C'est les ONG qui ont des bases d'adhésion qui sont internationales et qui, de ce point de vue-là, préfigurent qu'est-ce que serait la défense d'un intérêt général supérieur commun à l'ensemble de la planète. Mais c'est aussi maintenant les réseaux sociaux, c'est Internet, c'est les coopérations décentralisées entre collectivités locales. Là, on a eu, dans le cas qui vient d'être exposé, Poitou-Charentes et puis la région de Fatick. Il y a énormément aujourd'hui d'initiatives de coopération décentralisée nord-sud et qui sont en train d'aider ces pays-là à avancer. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer à Rio. Mais le point le plus important, c'est qu'il y ait toute cette communauté humaine qui va se rassembler. Il y aura 50 000 personnes à Rio. Et ces 50 000 personnes, quand elles vont repartir de Rio, elles vont repartir de Rio avec dans leur sac à dos des adresses, des contacts, des expériences qui ont été réalisées ici ou là, des concepts nouveaux, des idées, des capacités d'initiative. Et ces gens-là vont revenir dans leur entreprise, vont revenir dans leur territoire et vont faire de nouveau ces agendas 21. Alors moi, je dis agenda 21, saison 2. Hein, donc il va falloir maintenant repartir avec des sujets nouveaux, notamment beaucoup plus les questions sociales que ce qui a été traité jusqu'à présent. Les questions énergétiques sont bien sûr extrêmement pressantes. Et le bilan que l'on peut faire, qu'on pourra faire de Rio, c'est pas uniquement la question des accords internationaux et des décisions.
Ce sera tout ce dynamisme aussi.
C'est tout ce dynamisme, oui. Mais on a besoin que l'ensemble des responsables politiques du monde, et notre président de la République donc sera là le 20, soit dans ce chaudron, baigne avec l'ensemble des acteurs du monde, des entreprises. Alors, il y aura par exemple un sommet de tous les syndicats du monde à Rio sur ces questions de développement durable. Et c'est ça, c'est cette énergie-là qu'il va falloir ensuite réensemencer dans nos pratiques et dans nos territoires.
Merci beaucoup Pierre Adan pour tout ce décryptage de Rio plus 20. Je vous renvoie d'ailleurs sur le dossier Rio plus 20 de l'association 4D qui est sur le site de CO2 Mon Amour. Merci à Michel Thomas, Alain Duclos, Stéphane Combe, Valérie Ayestaraï qui réalisait l'émission, à Jean-Baptiste Audibert, à Anne Gouzon qui nourrissait les sites et bah tenez, allez, un petit peu de... On va au spectacle, oui.